Parti. Bonjour les amis et bienvenue dans ce retour du Club Foot sur Tendance Ouest et sur toutes les plateformes digitales de Tendance Ouest. Vous en avez l'habitude depuis le confinement, le Club Foot c'est en vidéo chaque semaine et vous pouvez le retrouver ce Club Foot évidemment en archive avec eh bien, tous ceux qui sont en face de vous encore aujourd'hui parce qu'ils ont des décidé de remplir encore une saignée. Ce sont des têtes que vous connaissez, ce sont des spécialistes du foot dans notre région. Et pour ouvrir cette saison 2020-2021 du Club Foot, on accueille d'abord Marc Aubeau du Courrier Cauchois. Bonjour Marc.
Bonsoir.
Bonjour à vous.
Bonjour.
Mathieu Pinault du Foot Normand. Il est déjà couché Marc.
Bonjour à tous. Il fait encore jour chez moi en tout cas, c'est bon.
Et le coach Gallon est en notre compagnie et rempile pour cette saison aussi. Bonjour coach Gallon.
Bonjour à tous.
Bon, messieurs, on va commencer par le Stade Malherbe, avec ensuite le HAC, puis ensuite le foot en Normandie, en National 1, National 2, National 3, mais on ouvre avec Malherbe. Malherbe qui a vécu un été mouvementé, un nouvel été avec plein de vagues, et puis un début de saison, ma foi, avec 4 points, match nul à Clermont et une victoire 1-0, c'était samedi dernier, vous avez pu le vivre sur les plateformes digitales de Tendance Ouest en direct, victoire 1-0 face à Ajaccio. Mathieu Billot, je commence avec vous, on va en venir juste au sportif pour commencer, c'est pas mal 4 points.
C'est même très bien, c'est 4 points en 2 matchs, on peut difficilement... On peut faire juste un tout petit peu mieux, mais pour le Stade Malherbe, c'est très bien. Quand on compare avec la saison dernière, c'est quand même largement mieux. Donc, c'est une bonne base de travail pour la suite à partir dans 2 semaines.
Coach Gallon, je me tourne vers vous sur le plan technique. Alors, on va rembobiner un petit peu la cassette. Au début de l'été, il fallait énormément dégraisser le groupe. Il fallait le préparer sur une préparation de 8 semaines extrêmement longue. Comment vous jaugez cette entrée en matière des Malherbistes sur les 2 premiers matchs?
J'ai surtout vu le 2e match. J'ai trouvé une équipe très dynamique, un peu même différente de ce que j'ai vu l'an passé, avec une équipe qui essaye de jouer. J'ai trouvé qu'ils ont posé beaucoup plus le ballon, ils ont essayé de chercher des décalages avec une maîtrise technique bien au-delà de ce que j'ai pu voir l'an passé. Moi, c'est un football qui me plaît et j'ai trouvé une équipe solidaire, quoi, il a fallu l'être en fin de match pour aller préserver ce résultat, mais en tout cas, elle a lancé un signe positif. Je crois que ce match était le signe de beaucoup de choses. Le signe d'une nouvelle ère, le signe d'un match gagné, le signe d'un au revoir de président, d'un accueil d'un autre. Enfin, je sais pas, j'ai eu le sentiment de beaucoup de choses positives sur ce match.
Mathieu, nous y étions à ce match, vous et moi notamment face à Ajaccio. Ce que souligne le coach Gallon, on l'a tous vraiment ressenti. C'était un match particulier quand même.
Ouais, c'est un match particulier. Après, je sais pas si le déroulement du match est lié, si les événements.
Non, mais l'atmosphère autour du match, pas le match lui-même, mais l'atmosphère autour du match était assez particulière quand même samedi.
Oui, moi j'ai surtout ressenti une atmosphère que les gens étaient heureux de retourner au stade et de revoir un match officiel du coup, parce qu'ils avaient certains d'entre eux avaient pu voir des matchs de prépa. C'est surtout ça que j'ai ressenti avec une belle petite ambiance mise. Malgré toutes les mesures qui sont prises sanitaires pour faire respecter. Donc, c'est surtout ça que j'ai ressenti. Après, forcément, à la fin du match, il y a eu les scènes de joie avec le nouveau président, Olivier Piqueux. Après, j'ai pas ressenti que la coulisse a eu un impact sur le terrain, en tout cas sur ce match-là.
Alors, peut-être pas un impact, mais par contre, les mouvements en coulisses étaient réels. On l'a vu, Olivier Piqueux est officiellement le 24e président de l'histoire du Stade Malherbe de Caen. Le premier à en être salarié, donc à en vivre. On verra plus tard dans cette émission et plus tard au fil de la saison ce que cela implique forcément dans la gestion du club. Au-delà de tout ça, coach Gallon, on a un Pascal Duprat qui, malgré les vagues, malgré tout ce qui s'est passé, reste dans sa ligne.
Oui, je pense qu'il est resté sur sa ligne directrice hein, depuis le début, alors que bon, ça fait quand même quelques mois que cette affaire de reprise dure. Je pense qu'il espérait des joueurs, il a vu qu'il fallait dégraisser. Mais je pense qu'au fond de lui, il a gardé ce fil conducteur, il a préparé ses joueurs à cette reprise. Et puis, je pense qu'aussi, il avait des informations en interne qu'il n'a jamais divulguées, qui lui laissaient espérer quand même qu'on se tourne vers ce qui s'est produit la semaine dernière, donc il a pas lâché, et je trouve que cette équipe dégage des forces positives, et l'ensemble du club a dégagé des forces positives pendant cette phase qui n'a pas été facile.
Première force positive dégagée, Mathieu Billon, je me tourne vers vous, c'est quand même Yacine Bamou, c'est un peu un miroir de ce qui se passe depuis quelques semaines. Il n'était pas censé jouer, il était censé être dans le dégraissage de départ, puis il a bien travaillé. D'ailleurs, Pascal Duprat en a fait l'éloge samedi après la rencontre. Il y a un pacte entre Duprat et ce joueur-là, et à mon avis quelques autres. On est dans une logique de rentrer dans le combat tout de suite, et puis bah, si malheureusement avec, c'est ça l'idée.
Oui, alors bah, concernant Yacine Bamou, ce Yacine Bamou-là, pour le moment, il a clairement sa place au Stade Malherbe, et s'il reste, je pense que Pascal Duprat sera très heureux. Voilà, c'est la seule interrogation qu'on peut avoir sur Yacine Bamou, c'est éventuellement son niveau de revenu héritage de la Ligue 1 qui pourrait faire planer une interrogation. Mais bah, je pense que l'idée, c'est quand même, en tout cas pour Pascal Duprat, de le garder. Et s'il part, il faudra, mine de rien, Malherbe a un effectif très important en quantité, mais les joueurs sur lesquels compte à l'instant T Pascal Duprat, ils ne sont pas si nombreux que ça.
Donc, si... Preuve en est, Mathieu, je vous interromps quelques secondes. Preuve en est, la méthode de Duprat pour mettre en place son équipe type au fait de préparation, elle s'est dégagée très vite, cette équipe type, finalement.
Oui, enfin, je pense que ça, c'est peut-être plus le coach qui peut répondre, mais de toute façon, je ne pense pas qu'un entraîneur va travailler avec 35 joueurs pendant 8 semaines. Vous le faites peut-être au départ sur les premières semaines qui sont peut-être plus consacrées au travail physique, et à partir du moment où vous voulez rentrer un petit peu plus dans le vif du sujet du ballon, bah, il faut vous réduire ça avec les joueurs que vous estimez répondre à vos attentes, sachant que rien n'est fermé. Il y a notamment des jeunes qui ont fait des apparitions, qui sont arrivés, qui sont sortis. Mais au bout d'un moment, il faut bien réduire le groupe, c'est inévitable.
Coach Gallon, justement, il vous a tendu la perche, Mathieu Billot, du foot normand. Comment on fonctionne pour bah, finalement fabriquer assez vite son équipe type du côté de Pascal Duprat ?
Il faut expliquer aussi que la prépa a été complètement différente de ce qu'on a pu voir dans l'histoire du football. Certains avaient décidé de faire 7 semaines d'un coup, quand avaient décidé de faire 8 semaines, c'est-à-dire 4 semaines, une semaine de vacances et 4 semaines derrière. Je pense que ça a été en deux phases, les 4 premières semaines où là tout le monde a été pris ensemble parce qu'il y a une grosse charge de travail athlétique, et puis les 4 autres semaines misées en deux groupes. Comme tu as pu le dire tout à l'heure, où là au départ Bamou n'était pas dans le groupe, il avait écarté certains, ils sont revenus, mais lui avait déjà gardé son groupe de travail qui savait l'équipe qu'il allait aligner, enfin plus ou moins dès le départ. Après, dans les matchs amicaux, il y a quand même eu pas mal de turnovers. Et il n'a pas aligné aussitôt son équipe type. Et je trouve qu'il a attendu vraiment le dernier moment. Il a essayé de donner le maximum de temps de jeu à tout le monde. Et il a essayé de concerner le maximum de personnes. Et ça a été bien fait. Et maintenant, il y a aussi quelque chose qu'on n'a pas parlé. Je trouve que tout ce qu'ils ont pu faire, le stage de cohésion, on a vu avec les pompiers, Umavic, Outavic. Enfin, on a vu des choses qui... J'ai l'impression que ça ressort. Que l'état d'esprit va être un élément fort... Mais après, il faut quand même qu'on voit en regardant le match samedi, qu'on voit quand même l'effectif du Stade Malherbe. C'est pas n'importe quoi comme effectif. On a quand même des joueurs de qualité, des joueurs reconnus au niveau de Ligue 2, voire Ligue 1, et des jeunes qui poussent, qui ont envie et qui ont prouvé pendant la prépa qu'on pouvait compter sur eux. Et d'ailleurs, nos deux grands vilés qui étaient là dans le groupe, et pour nous, c'est une grande fierté.
Ouais, Johan Le Penant et Lou Hermieux, effectivement. Mathieu Billot, vous en soupesez quoi de la qualité de cet effectif jusqu'à maintenant pour matcher en Ligue 2 ?
Bon, après deux journées, je crois que c'est un peu prématuré de dire si cet effectif-là a la qualité pour prétendre à quelque chose, surtout que le mercato se terminant dans un mois, on sait pas. C'est surtout, il faudra voir quel visage il aura dans un mois, l'effectif, pour se connaître un petit peu les ambitions de ce Stade Malherbe.
Vous êtes en train de dire qu'on n'est qu'au mois d'août, finalement, de d'habitude.
On est même au mois de juillet, limite fin juillet, par rapport à l'année dernière, on est limite fin juillet. Hein, la saison de l'année dernière a dû commencer par le 22 ou le 25 juillet, le premier match à Sochaux. Donc, voilà, il y a un mois de décalage au niveau du mercato. Non, c'est très prématuré, ces deux matchs. Et en plus, on ne sait pas non plus la valeur réelle des deux adversaires, que ce soit Clermont ou Ajaccio. Ce n'est pas parce que Clermont et Ajaccio ont fait top 5 l'année dernière à la mi-mars que ça va être deux équipes qui vont de nouveau prétendre au tableau, notamment Ajaccio qui a perdu énormément de monde pendant l'intersaison. Il faut attendre un petit peu. Souvent, on dit qu'on fait une première lecture à la 10e journée. On verra où on sera le Stade Malherbe à ce moment-là.
Justement, coach Gallon, là, on vient de le stipuler, il y a un mois de décalage par rapport à d'habitude. Ça veut dire que le mercato se termine le 1er octobre. Qu'est-ce qui va se passer là au sein du club entre le coach, le directeur sportif, le nouveau président? Ces réunions tous les jours pour essayer d'ajuster l'effectif, c'est ça l'idée?
Il y a deux choses. On avait un problème avant, c'est qu'on a une grosse masse salariale sur quelques joueurs. Donc ça, il y a des joueurs qui ont des salaires de ligue. À mon avis, il y a eu des grosses interrogations à ce qu'il faut garder ou pas ces joueurs. Maintenant, le fait qu'il y a un actionnaire qui est arrivé, est-ce que ça va changer la donne? Et à partir de là, si on peut garder ces joueurs, ça va être de renforcer à des postes bien précis. Je pense qu'ils vont chercher encore un joueur offensif, un milieu de terrain, voire un défenseur. Mais je pense qu'aujourd'hui, le Stade Malherbe est armé quand même, hein, une équipe de qualité. Maintenant, je pense qu'il faut y mettre trois joueurs supplémentaires pour apporter un plus. Et je pense qu'avec l'argent qui va être investi, il y aura moyen d'avoir trois joueurs de qualité. Après, c'est vrai que le mercato, c'est un peu bizarre. On n'a pas l'habitude que ça dure encore si longtemps. Les joueurs qui sont sur le marché, qui ne sont pas sur le marché, enfin, tout est un peu différent. Mais ça est différent à tout niveau et je pense qu'il faudra être malin et saisir les bonnes opportunités. Mais je pense qu'au fait que le Stade Malherbe aujourd'hui est parti déjà sur la meilleure base. L'an passé, je crois qu'on avait combien de points au bout de deux journées? 0 points, je crois. Donc aujourd'hui, forcément, que dans la confiance, tout est beaucoup mieux et on peut travailler avec de la sérénité.
Mathieu Billot, dans les coulisses, même question qu'à Coach Gallon, mais cette fois de l'autre côté de la barrière, hors technicien. Qu'est-ce qui va se passer pendant ce mois à venir là?
Il va se passer peut-être beaucoup de choses. Déjà, il y a le projet de rachat à finaliser. Il reste encore quelques étapes.
Bon, alors, on le rappelle, la principale de ces étapes restantes reste le vote par le conseil municipal de Caen qui aura lieu le 14 septembre. Ensuite, il faut aussi rappeler, même si les gens trouvent ça long, en matière d'entreprise, le rachat du club bouclé en 4 mois, c'est pas long, c'est ça l'idée?
Non, on m'a fait surtout comprendre que c'était extrêmement rapide.
Voilà, c'est ça.
En interne, on m'a fait comprendre que c'était très, très, très rapide. Donc, c'est vrai qu'on peut trouver ça long parce qu'on parle que de ça, peut-être au niveau du Stade Malherbe depuis quasiment le mois de mars et le confinement. Et comme il n'y a pas eu d'actualité sportive à côté, on s'est concentré là-dessus. Mais non, c'est très, très rapide. Maintenant, il reste quelques étapes. Enfin, maintenant, on a vu le communiqué des futurs anciens actionnaires, on va dire ça comme ça, qui ont acté le changement. Donc, il faut éventuellement voir s'il y a les moyens de recruter, continuer à dégraisser, parce que l'effectif reste important, avec des joueurs sur lesquels pour le
moment. Oui, il va y avoir, faut pas se leurrer, il va y avoir des prêts et des ventes dans le sens des départs, à coup sûr.
Ah bah à coup sûr, encore faut-il que les joueurs le veuillent bien. Moi, je sais pas, je suis pas à la place des joueurs. Les joueurs, ils ont un contrat. Est-ce qu'ils vont vouloir certains partir? Est-ce qu'ils vont trouver un point de chute qui leur convienne? Ça va être un petit peu à eux d'y répondre.
Oui, mais ça va être là, on va rentrer dans le jeu des agents du dernier mois de mercato, finalement, qui d'habitude, comme vous le disiez, est au mois d'août, quoi.
Oui, oui. Enfin, on a quand même vu sur les derniers mercato au niveau du Stade Malherbe qu'on a toujours dit un tel il va partir. Et au final, il y a des joueurs qui sont restés. Donc, en tout cas, je m'avancerai pas pour dire que les 3-4 joueurs sur lesquels ne compte pas le Stade Malherbe ne seront plus cannés le 6 octobre. On va voir ça.
Mais après les joueurs que Pascal Dupraz ne souhaite plus, est-ce que c'est des joueurs à fort salaire ou à petit salaire?
Ah bah, il y en a quelques-uns, je pense. Enfin, je ne connais pas le niveau de rémunération des joueurs, mais je n'imagine pas qu'un Santi Ngom fasse partie des plus petits salaires du club. Et jusqu'à preuve du contraire, il s'entraîne avec la réserve, ce garçon-là. Donc, après, peut-être que sa situation va évoluer, peut-être qu'il reviendra dans les papiers du coach ou de la direction aujourd'hui. Et puis, plus vous rajoutez un Erwin Zelazny, plus éventuellement Arnold Isacco, même si ce n'est peut-être pas les salaires les plus importants du club. C'est surtout que ça nous fait quand même petit à petit de la masse salariale supplémentaire. Et le club s'est quand même fait épingler par la DNCG à cause de sa masse salariale. Donc il faudra falloir un moment quand même, si vous voulez recruter, dégraisser un minimum.
Bon, ouais, messieurs.
Il va y avoir un apport financier aussi. Et ça, faut...
Mais il va y avoir repassage à la DNCG derrière. Il faut attendre quand même administrativement pas mal d'étapes aussi. C'est ce que l'on dit aussi. Et ça ne pourra peut-être pas être immédiat, tout ça. En tout cas, messieurs, on y reviendra sur ce rachat puisque ça ne va plus tarder maintenant entre l'officialisation de la présidence d'Olivier Piqueux, l'officialisation du rachat très probablement, selon nos infos, juste après le passage au conseil municipal. On aura en tout cas beaucoup, beaucoup de cartes réunies pour avoir tout l'éventail de ce que va être ce nouveau Stade Malherbe de Caen sous bannière américaine. Allez, nouvelle rubrique, vous êtes pas au courant, messieurs, je vais vous demander votre top et votre flop du dernier match côté malherbiste. Le top pour vous, Mathieu Billot, pour commencer.
Le top, je veux dire Yacine Bamou. Allez.
Et pour vous, coach Gallon, le top du dernier match.
Bamou.
Yacine, qui reste en tête de vos observations. À l'inverse, le flop, Mathieu Billot.
Le flop, j'en vois pas vraiment. Je vais citer un garçon, mais vraiment parce qu'il faut citer un flop. Je vais dire Yoel Armougom, mais pas parce que je considère que c'est un flop. Mais je suis sûr que ce garçon, il a un potentiel. Mais je ne comprends pas pourquoi, des fois, il a des absences comme ça qui pénalisent sa prestation d'ensemble. Parce que je pense que vraiment, ça peut être un joueur très intéressant pour ce Stade Malherbe-là. Et j'espère qu'il va franchir ce fameux palier qu'on lui prédit depuis 2-3 ans pour qu'il soit un joueur majeur de ce club.
Et Jo Gallon, pour terminer, votre flop du dernier match.
Pour moi, je ne vais pas citer de joueur parce que j'ai trouvé que c'était très encourageant de la part de tous. La fin de l'histoire de Fabrice Clément avec le Stade Malherbe.
C'est votre flop de cette émission. Voilà pour le Stade Malherbe de Caen, messieurs. On va franchir la Seine, on va monter dans le Grand Nord, retrouver Marc Aubeau du Courrier Cauchois. Vous restez évidemment tous avec nous. Eh bien, Marc, on n'est pas si mécontent que ça. On a des regrets. On est comment, au WAC, après ces deux journées? On le rappelle, une défaite et une victoire 1-0 des Havrais, 3 points après 2 matchs. C'est quoi l'idée? C'est quoi l'état d'esprit du côté du WAC?
Ah bah ils sont très contents, Paul Le Guen est très content après la victoire contre Amiens, 1-0, sans but marqué, une victoire sans but marqué par un attaquant, enfin par un joueur havrais quand même, hein. C'est un but contre son camp, sur un centre de Meyras, et puis un Amiénois qui tacle, le ballon qui lobe Thuram, l'ancien gardien du Havre, et on gagne 1-0, on a une seule occasion, je sais que vous allez aborder la question après, à la recherche du buteur perdu, mais oui, on a une seule occasion, la tête de Thiaré en deuxième mi-temps, et une belle parade de Thuram, mais autrement, non, donc c'est pour cette raison-là que Paul Le Guen l'a répété en conférence de presse, mais il était très content et très heureux de cette première victoire.
Alors, vous me tendez la perche, évidemment, qu'on va l'aborder ce sujet, parce qu'on a vu des Havrais qui, dans le jeu, sont pas si mal, qui peuvent supporter la comparaison avec la totalité des équipes de Ligue 2, qui, pourquoi pas, peuvent avoir quelques ambitions aussi au bout du compte, sauf qu'il y a un gros sauf que. C'est cet attaquant, ce buteur, ce Jamal Thiaré en pleine forme, ou surtout ce Tino Kadewere de l'année dernière, il n'est pas là cette année pour l'instant.
Ouais, c'est même offensivement, c'est pas que l'attaquant. Il y a Cornette qui a fait une bonne rentrée là. C'est lui qui fait d'ailleurs la passe décisive, enfin qui fait la passe décisive, qui aurait pu être décisive, Thiaré sur la tête. Mais on est d'accord. C'est vrai que nous, ce qu'on a du mal à comprendre, c'est que Kadewere, il a été vendu en janvier à Lyon, donc ça fait 6-7 mois, et on recherche toujours cet attaquant. Alors il y a un nom qui revient toujours avec insistance, c'est le Karim El Barkaoui. Du club marocain d'Agadir.
C'est le nom qui revient. Ou c'est pas fait ça?
Ah là, à l'heure où on parle, non, c'est pas fait. Non, il n'y a aucune officialisation. Mais c'est vrai que c'est le nom qui revient. Alors, c'est vrai que Paul Le Guen, il avait fait une sortie, la médiatique contre Troyes, où il était très énervé. Parce que, d'ailleurs, c'est rare qu'il parle comme ça, parce que d'habitude, il est toujours très posé. Et, bon, il était posé, mais là, en même temps, il a dit voilà, il nous manque des joueurs offensifs, j'attends cet attaquant. Et puis, deux jours après, bon, il avait un peu. Il s'était un peu calmé et il dit « Ouais, voilà, c'est un peu dur le mercato actuel avec justement les transferts un peu internationaux. » Alors, tout de suite, on pense à Karim El Barkaoui. On se dit que voilà, ça demande plus de temps parce que c'est un transfert international, c'est pas un transfert en France. Et voilà, c'est peut-être pour ça que ça demande plus de temps. Mais après, voilà, il ne faut pas simplement un buteur. Si l'année dernière, quand Kadewere, à un moment, a été blessé, on a connu une période difficile, combien d'émissions on a fait là-dessus? Voilà, c'était la Kadewere dépendance. Donc, il ne faut pas recruter un seul joueur, il faut recruter plusieurs joueurs. Mais après, voilà, Paul Le Guen est très, est très prudent. Il l'a répété. Il dit, voilà, par rapport à la saison, est-ce qu'on peut aller au bout de la saison? Est-ce qu'il faut recruter sur plusieurs années, vu le coût que ça représente? Donc, ouais, donc c'est vrai que c'est... Il est très prudent. Il est très prudent. On se dit, tiens, dans deux semaines, est-ce qu'on va avoir est-ce que le HAC va avoir un nouveau joueur offensif pour le déplacement à Guingamp? Et il a dit, non, rien n'est fait. Rien n'est certain. Donc, pas sûr que le HAC ait un nouvel attaquant, un nouveau joueur offensif pour le déplacement à Guingamp le 12 septembre.
Mathieu Billot, je me tourne vers vous parce que ce club à vrai, on a toujours envie qu'il soit armé pour aller jouer enfin une montée, pour aller vraiment se positionner dans le haut de tableau. C'est une envie qu'il y a chez tous les supporters, évidemment. C'est la 12e saison, Marc, c'est ça, d'affilée en Ligue 2. Donc, on a envie de revoir le HAC aller chercher la Ligue 1. On a toujours l'impression qu'il manque un truc, Mathieu.
Oui, alors après, pour décrocher la montée, il y a aussi une question de moyens. Comme on voit la saison dernière, Lens et Lorient, et notamment Lens, c'est une équipe, c'est des dirigeants qui ont mis énormément de moyens financiers, et pas sur une saison. Lens,
mais qui a mieux cette année? Qui a mieux cette année en Ligue 2?
Ah ben aujourd'hui, quand même, Le Havre a... Alors moi, je trouve qu'ils ont fait des bonnes recrues, voilà. Mais Le Havre a énormément perdu, quand même. Vous prenez le 11 type de la saison dernière, on parlait de Tino Kadewere, mais vous rajoutez Loïc Badé, qui, sur la phase retour, a été titulaire 7 ou 8 matchs de rang et qui est titulaire avec Lens en Ligue 1 sur le début de saison. Vous rajoutez Pape Gueye. Voilà, ça fait quand même des joueurs. Il y en a d'autres.
Et on peut peut-être rajouter, malheureusement, Victor Lekal.
On va y revenir sur le cas de Victor Lekal, Marc.
Il y a des implications sur l'effectif sur deux joueurs, dont Victor Lekal et peut-être Oumout Meras, qui sera convoité d'ici la fin du mercato. Ils ont perdu énormément de joueurs.
Pourquoi ça ne le fait pas? On perd et qu'on ne parvient pas à réattirer des joueurs au sein de ce club du côté de Paul Le Guen et de ses équipes de recrutement, d'après vous, messieurs?
Parce que soit il faut mettre des moyens financiers que peut-être Le Havre n'a pas, et ce qui peut se comprendre, hein, et après la Ligue 2, éventuellement, c'est compliqué.
Marc,
après, il y a cette envie toujours de... il y a le président Volpe qui annonce toujours que ce n'est pas une question là. Bon, après, sauf qu'on observe que oui, il ne recrute pas. Et après, il cherche toujours un joueur qui peut apporter plus qu'un jeune joueur. Et Paul Le Guen le rappelle souvent, il est là aussi pour développer les jeunes. Donc, s'il ne trouve pas un joueur qui est vraiment au-dessus du jeune, il ne prendra pas. S'il considère qu'il y a un jeune qui a du gros potentiel, il préférera donner la chance aux jeunes plutôt que de recruter un joueur du même niveau. Ça, il répète, et c'est vrai qu'on peut l'observer, depuis qu'il est arrivé, il fait. Malheureusement, Badé, ça s'est retourné contre le HAC. Il l'a mis, il trouvait qu'il était meilleur, il l'a mis défenseur central, titulaire, et voilà, il est parti à Lens pour 0€. Et pareil pour
Coach Gallon, vous êtes notre technicien, notre consultant dans cette émission. Ça se comprend ce que fait Paul Le Guen, non?
Bah, tout à fait, c'est une politique de club, de vouloir se servir de son centre de formation. De toute façon, elle est où la politique? Les joueurs qui viennent de centre de formation coûtent moins cher que des joueurs qui arrivent de l'extérieur. Ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est de gagner de l'argent à la revente sur ces joueurs. Alors par contre, quand on fait jouer ces joueurs et que comme Baldé qui part à Lens et qui part pour 0€, ça, c'est une mauvaise affaire. Voilà. Et il a joué.
Il y a eu des mauvaises affaires ces dernières années. On les a soulevées avec Moukoudi, avec Badé et tout ça. Mais là, c'est aussi tout ce qu'il y a autour de ces signatures de contrats, de ces ventes et tout ça. Mais sur le plan stricto sensu du jeu, on a quand même une vraie qualité de Paul Le Guen. Et c'est en ça, messieurs, que je trouve qu'il s'impose comme un patron, c'est qu'il a vraiment une idée sur le long terme. Et Marc, vous avez soulevé il y a quelques instants ça. Sur le long terme, il a une idée de formation pour aller vraiment mettre les meilleurs jeunes, peut-être, plutôt que d'aller recruter. Le problème, c'est est-ce que ça fait monter ça, coach?
Ouais, mais Sylvain, c'est autre chose. Est-ce que vraiment ils ont annoncé qu'ils voulaient monter? Moi, je n'ai pas entendu une seule fois de la part du Havre. On veut absolument monter. Ça, c'est... Par contre, qu'aujourd'hui, ils investissent de l'argent dans leur centre de formation, ça, c'est une certitude, qui permet aujourd'hui d'avoir des joueurs qui intègrent le groupe professionnel et qui jouent, ça, c'en est une deuxième. Et la troisième, l'objectif est de faire de l'argent. Donc, peut-être que Paul Le Guen, on lui a demandé, voilà, maintenant, je voudrais que tu travailles avec le centre de formation. Ça peut-être était une des données quand il a signé au Havre. Après, le coach, il accepte ou il accepte pas. Mais en l'occurrence, je pense qu'on est dans cette ligne directrice de se servir du centre de formation et de monter les joueurs au-dessus. Et Volpe, il veut qu'une chose, à mon avis, c'est qu'il y ait des ventes de joueurs. Mais c'est là, et je reviens à ce que je viens de dire tout à l'heure, quand vous demandez à un coach de faire ça, qui vous fait jouer les joueurs, qui vous les met en vitrine, et que vous, ça vous rapporte zéro, c'est quand même, ça arrive une fois, ok, mais là, ça fait quand même deux, trois fois que ça arrive. Donc là, j'ai du mal à comprendre, entre ce qui est voulu au départ et ce qui se passe à la fin, il y a un delta qui est pour moi, qui est pas... Mais est-ce que le Havre, aujourd'hui, est armé pour jouer le haut de tableau? Je ne suis pas si sûr que ça, s'il ne recrute pas des joueurs un peu plus confirmés, qui vont apporter un plus. Alors par contre, quand j'entends « il faut que ces joueurs apportent un plus par rapport aux jeunes », là, je suis entièrement d'accord avec ça, de ne pas recruter pour recruter. Mais si le Havre veut jouer les premiers rôles, il faudra recruter au moins 2-3 joueurs qui apportent un plus à cette équipe.
Marc Aubo, avec le courrier Cauchois, vous suivez le HAC chaque semaine dans vos colonnes. Qu'est-ce qui manque au HAC aujourd'hui pour aller chercher le haut de tableau?
Ah non, clairement, de l'investissement sur des joueurs de haut niveau qui peuvent permettre, soit des joueurs de Ligue 1, Cabot, je crois qu'il n'a pas encore trouvé un club, hein. Cabot, il est toujours libre. Voilà, c'est un joueur, voilà, Ligue 1, très haut niveau Ligue 2. Voilà, bah, qui ouvre le carnet de chèques. Je voudrais juste rebondir sur ce que dit Coach Gallon, là, très intéressant, en disant que voilà, ils sont fait avoir sur Badé, sur Boukoudi. Président Volpe l'a annoncé, hein, la nouveauté cette saison et pour les années futures, c'est tant que le jeune ne signe pas pro, il ne pourra pas jouer en équipe première. C'est une condition qu'il a imposée.
C'est une bonne chose, ça, coach. C'est une bonne chose.
À la preuve que non.
Non, mais là, à partir de cette année, il l'a mis.
À partir de cette année, celui qui ne signera pas pro.
C'est la réaction à Badé, en fait, ça.
Oui, mais après...
Badé a été la goutte d'eau.
Voilà, mais bah, c'est bien. Moi, il y a une réaction. Mais forcément, que quand vous êtes président, vous voyez que votre joueur, il part pour zéro, qu'il est titulaire à Lens, alors qu'il a une valeur marchande de, je ne sais pas, moi, peut-être entre 2, 3, 4 millions d'euros, je ne sais pas, et qu'il s'en va pour zéro, bah, l'investissement que vous avez mis dans son évolution du centre de formation, ça ne vous le rembourse même pas. Donc, dans ces cas-là, ça ne sert à rien de faire de la formation. Pour faire 7 matchs et partir pour zéro, ça ne sert à rien d'investir dans la formation. Donc, au moins, il y a une réaction. Et c'est clair que peut-être que le Stade Malherbe, là-dessus, avait un temps d'avance. Ils ont peut-être fait ça, mais au moins, ça les couvre de ce genre de problème.
Marc Aubo, on va se projeter un petit peu vers l'avenir. Les 2-3 prochains matchs, notamment celui à Guingamp, sont très attendus pour le HAC. La petite pause qui arrive internationale, là, elle va servir à quoi, Paul Le Guen, selon vous?
J'espère à trouver ces fameux joueurs offensifs, à les faire signer. On espère tout ça, mais honnêtement, c'est flagrant. Tout à l'heure, vous avez dit, ouais, ça produit du jeu, ça joue et tout. Ouais, enfin, offensivement, c'est stérile, quoi. 2 matchs, 0 but, et une seule.
Quand je disais ça, j'étais plutôt sur l'aspect de la solidité. Ce que l'on voit en début de saison me paraît solide. Voilà, dans le bloc défensif. On n'est pas tellement mis en péril jusqu'à ce que Ertuğrul Erzoy fasse absolument n'importe quoi à 3. D'accord. Il n'y avait pas de péril, quoi. Il n'y avait pas de péril.
Si, il va aussi peut-être t'apprendre parce que Bemba, sur le deuxième jaune, je ne sais pas si vous l'avez vu, mais il fait un tacle. Il n'y a pas lieu de faire un tacle ici, au rond central, deuxième jaune, début du match. On sait que le match d'avant, on a fini à 9. Enfin, bon, c'est un peu aussi une faute dommageable. Mais finalement, on joue encore à 10, à 10 contre 11 pendant. Parce qu'après, il y a une expulsion vers la 82e, quelque chose comme ça. Donc pendant 30 minutes.
Pendant longtemps, à 10.
Ouais, je suis de nouveau à 10. Donc il va peut-être travailler là-dessus aussi, de dire à ses joueurs de moins jeter, de plus cadrer, et puis de moins faire des fautes. On va dire, ouais, là, c'est des fautes bêtes, clairement, à ce niveau-là. Ils ne vont pas pouvoir compter sur un Gorgelin exceptionnel contre Amiens samedi soir. Il a fait des arrêts à la Neuer, ses pieds là.
Il était très très fort.
Ça va peut-être devenir la nouvelle mode. Mais mais Gorgelin, le HAC peut dire merci à Gorgelin.
Allez, Marc Cobo, vous allez également passer au petit jeu du top et du flop du dernier match. Le top pour vous au dernier match, on imagine que c'est l'homme dont vous venez de parler, évidemment.
Exactement, transition parfaite. Donc Mathieu Gorgelin pour ses arrêts.
Mathieu Billot, allez, vous avez vu des extraits, vous avez plongé forcément avec le foot normand dans ce match du Havre. Le top, pareil à Gorgelin?
Oui, alors Gorgelin, c'est un top depuis qu'il est arrivé, parce que je pense qu'il est, il est vraiment très très bon. Et moi, je mettrais un petit top général, même sur les 4 joueurs, hein, même si Mbemba forcément a fait une connerie là, avec son deuxième jaune, mais je trouve que les 4 joueurs qui sont arrivés sont quand même des joueurs sur le papier très intéressants. Donc le HAC n'a pas pris personne non plus, ils ont pris 4 joueurs qui pour moi sont intéressants. Ça suffit peut-être pas, mais c'est pas mal.
Et le flop, en revanche, pour vous, Marc Aubo?
Bon, après, pendant 50 minutes, c'était pas mal, hein, mais je vais dire pour ce nouveau carton jaune et cette nouvelle expulsion, je vais dire Bemba.
Et pour vous, Mathieu Billot?
Eh ben, les rouges, d'une manière générale. Les trois pris depuis... Les
ouais, trop de rouges. Trop de rouges, ouais, sur le... Ouais, ouais. Les trois rouges en deux journées. Bon, messieurs, vous l'avez vécu également pendant le confinement avec l'apparition de ce club foot en vidéo. On s'intéresse aussi cette saison au foot régional, à nos clubs normands, nationaux. Il y a l'US Avranches et Quevilly Rouen Métropole qui luttent ensemble dans ce championnat de national 1. En National 2, nous avons votre US Granville, coach Gallon, mais aussi le FC Rouen et la réserve du Stade Malherbe de Caen. Et en National 3, pour ceux qui découvriraient ce championnat, c'est un championnat exclusivement composé de clubs de notre région. Allez, un petit tour messieurs de l'ensemble de ce début de saison. Alors, je vais commencer avec vous, coach Gallon. D'un point de vue général, qu'est-ce qui vous inspire ce début de saison en National 1, National 2 et National 3 pour nos clubs normands?
Moi, je pense qu'on a vu Avranches avec un effectif complètement remodé, avec beaucoup de départs, le Covid, ils n'ont pas pu faire comme ils voulaient. Je pense qu'ils ont su très bien réagir. Puis le coach Frédéric Culot va continuer à bien faire jouer son équipe et je pense que est-ce qu'ils pourront être ambitieux comme l'an passé? Je ne sais pas, mais ça sera toujours une équipe qui a de la qualité et qui fera une saison sûrement dans les 8 premières places. Voilà. Après, que Vili est parti eux sur un autre projet avec un nouveau coach, je pense que c'est le temps que ça se mette en place. Mais je pense que l'ère de ce coach va apporter un sang neuf, va apporter quelque chose de nouveau, mais il faut laisser un peu plus de temps. Voilà, mais on aura deux équipes qui seront dans le coup dans le championnat national, qui seront compétitrices, et ça, c'est important pour le foot régional.
Mathieu Billot, évidemment, on ne va pas faire parler le coach sur sa propre division. On va vous laisser parler du FC Rouen et de l'US Granville dans ce début de saison. Alors, dans une moindre mesure, on le rappelle, la réserve du Stade Malherbe de Caen est montée de National 3 en National 2 et donc évolue en compagnie de l'US Granville et du FC Rouen. Mais les deux équipes premières, ce sont elles qui nous intéressent au premier chef. Mathieu, vous en soupesez quoi de ces deux équipes du championnat de National 2 pour notre Normandie?
Ben, c'est deux belles équipes qui, je pense, ont les moyens de se mêler à la lutte au moins pour le top 5. Je ne vais pas aller plus loin pour le moment, compte tenu que je pense que la poule est une nouvelle fois extrêmement homogène, qu'il est bien compliqué de savoir qui pourra monter, même si Fleury fait un bon départ. Hein. L'autre grand favori, Chartres, pour le moment, la mayonnaise avec Jean-Pierre Papin, en termes de résultats, ça prend moyen. Mais c'est vraiment deux belles équipes qui ont fait deux beaux recrutements, voilà, qui ont réussi aussi chacune de leur côté à garder une petite ossature, peut-être un peu plus au FC Rouen et un peu plus de changements à Granville, stabilité dans les staffs. Non, je pense qu'on, comme souvent, je pense que Granville et je pense que souvent ils seront pas très loin effectivement du top 5. Après, pour l'avoir plus, c'est un phénomène, il faut que vos recrues s'intègrent bien, il faut peut-être que vous ayez le petit facteur réussite en plus, vous ayez le garçon devant qui vous mette peut-être la quinzaine de buts, ça dépendra de ça, mais on a, avec la réserve du Stade Malherbe, on a trois beaux représentants normands dans cette division.
Et en National 3, on va poursuivre le tour avec vous, Marc Aubeau. Alors, il y a du bas normand, il y a du haut normand en National 3. Cette division, qu'est-ce qu'elle peut receler, selon vous, cette année?
Il n'y a plus beaucoup de Normands, hein. Malheureusement. Vous êtes, il y a quand même une majorité, non? Je n'ai pas compté, mais il doit y avoir une majorité d'équipes bas normandes, non? En N3, non?
Ah, peut-être, hein, une de plus cette saison, ouais. Peut-être une, ouais, de plus. Ça doit faire 8 pour 6. Ouais. Ça doit faire 8 pour 6.
Bah, nous, on a perdu Gonfreville déjà, qui était un peu notre club phare. Donc,
Et Grand Quevilly du côté de la banlieue rouennaise, exactement.
Exactement. Bah, déjà, ça commence par un match reporté pour la réserve du HAC. Pour un cas de Covid en U19.
Cette réserve du HAC, sincèrement, Marc et Mathieu, est-ce qu'elle est capable de jouer la montée comme celle du Stade Malherbe de Caen l'année dernière? Est-ce que c'est une volonté, Marc?
Non, c'est la formation. Ce qui compte, c'est la formation. Ils ont mis Mickaël Le Baïf, entraîneur, c'est la nouveauté, qui était entraîneur avant des U17, là, des U19 l'année dernière. Et là, il s'occupe de la réserve en National 3. En fait, il suit ses joueurs. Donc, c'est bien. Enfin, je sais pas, coach Gallon, je sais pas ce qu'il en pense, mais je pense que c'est la preuve qu'il suit ses joueurs, il suit la formation. C'est un intérêt vraiment pour former les joueurs. Non, moi, j'ai envie de, après, moi, je laisse Mathieu parler des bas normands, mais moi, les hauts normands, Dieppe, j'aime bien, Dieppe, parce qu'il reste vraiment sur les joueurs régionaux. Mathieu Gonnel fait du super boulot et il a toujours dit, il recrute des joueurs toujours autour de Dieppe. Et là, il commence par une victoire. Il l'a dit, là, c'était important pour lui de repartir après ces longs mois d'absence de compétition. Moi, j'aime bien Dieppe, j'aime bien leur esprit, toujours dans une bonne ambiance. Moi, j'espère que Dieppe va faire un grand championnat cette saison.
Bon, la balle vous est lancée, Mathieu, du côté des bas normands. C'est quoi votre petit club que vous avez repéré en National 3? C'est Dieppe pour Marc Aubo, c'est quoi pour vous?
Alors, moi, je vais en citer deux, mais pas forcément que des bas normands. Côté bas normand, je trouve que la Gécan, c'est intéressant. Je les ai vus une fois en préparation. Ils ont une belle équipe, un bel effectif. Devant, ils ont des garçons qui peuvent faire mal. Peut-être que le coach d'ailleurs pourra en dire un mot. Je crois qu'il les a affrontés en amical, si je me trompe pas. Peut-être que je me trompe. Ah, je me trompe totalement.
Voilà. Non, visiblement non. Visiblement non.
Et pour moi, je enverrai aussi Wassel, qui est l'équipe reléguée de N2. Même si le coach Romain Djoubry annonce qu'il est plutôt parti sur un projet de reconstruction, il y a un recrutement sur le papier intéressant. Voilà. Après, Dieppe aussi, c'est un club qui a pas perdu beaucoup de joueurs non plus. Qu'on a recruté 2-3. C'est comme un peu la N2, ça peut être des championnats qui peuvent être extrêmement homogènes. Et moi, la réserve du HAC, il faudrait quand même pour s'en méfier, même si ce n'est pas un objectif déclaré. Quand vous avez une bonne petite génération de jeunes, je pense que le Havre en a une. Quand ça prend bien, ça peut devenir très intéressant. On l'a vu pour une autre réserve la saison dernière. Moi, je pense que la réserve du HAC peut être largement dans les 5 premiers.
Bon, même jeu, messieurs, mais vous allez participer tous les trois et on va élargir National 1, National 2, National 3, votre top et votre flop du week-end, toute division mêlée, un événement que vous avez retenu, un but que vous avez vu, un joueur qui vous a marqué, un score qui vous a retenu votre attention. Allez-y, parce que là, en fait, le public ne le sait pas, mais vous le savez absolument pas. C'est qu'ils sont pas au courant, en fait, que j'allais leur poser ça, donc ils ont rien préparé du tout et c'est ça le plus marrant. Et je vais commencer par celui qui sourit le mieux, c'est Mathieu Billot, justement. Allez, je commence avec vous, Mathieu. Votre top et votre flop du dans le foot fédéral normand.
Eh bien, écoutez, je vais pas lui tresser de laurier, mais moi, mon petit top, c'est le recrutement de Paul Relais à l'US Granville. Voilà. C'est pas un garçon que je connais personnellement, je l'ai côtoyé un petit peu professionnellement. Mais voilà, c'est le peu que j'ai côtoyé, je l'aime bien. Je pense que c'est en plus un bon gardien qui sera amené peut-être à faire une carrière de nouveau professionnelle. Et je pense que c'est un super recrutement pour l'US Granville. C'est une super opportunité pour Paul Relais. Et je pense que les deux, ça peut faire un très bon match.
Marc Aubo du Courrier Cauchois, votre top du week-end en N1, N2, N3.
Je vais rester sur Dieppe. En top, la victoire 3-2 là, face au club de Vire de notre cher ami.
Christophe Lécuyer, que l'on salue bien bas, effectivement. Coach Gallon, votre top du week-end dans les championnats fédéraux?
Moi, j'en ai deux. J'ai la victoire de la réserve du Stade Malherbe à Blois, qui est un vrai beau résultat. Et la victoire de Diff pour son retour en N3. Je crois que c'est bien de retrouver ce club à ce niveau-là.
Et l'on salue évidemment l'entraîneur de Div, Philippe Clément. Et j'ai une pensée également pour Laurent Moineau, l'ancien président. Successeur bien démarré dans ce championnat de National 3. On a fait les tops, on va faire les flops, on va prendre le même ordre. Et on recommence, Mathieu Billot, foot normand. Votre flop à l'inverse de ce week-end.
Les flops, j'irais peut-être un petit peu le flou qui entoure les championnats fédéraux. Et peut-être régionaux demain, autour de la Covid-19. On a vu un peu ce qui s'est passé à Avranches. Ils ont été touchés par des cas. Il n'y a pas de protocole très précis comme en Ligue 1, Ligue 2. Pendant la préparation, les clubs n'avaient pas accès aux vestiaires. Enfin, c'était pas très. Enfin, j'ai trouvé que ça me manquait un peu de clarté de la part de la fédération. Et je pense que les clubs de ces niveaux-là auraient besoin d'être peut-être mieux accompagnés par rapport à ce problème qui est assez important aussi pour les clubs.
Marc Aubo du Courrier Cauchois, votre flop du week-end.
Je ne vais pas dire la même chose que Mathieu, donc je vais dire.
C'est autorisé, si c'est vraiment le sujet.
Non, parce que je l'ai abordé tout à l'heure avec déjà la réserve du HAC. Non, je vais dire le nul de QRM au Mans, alors qu'il menait 2-0. Le Mans revient grâce à un super Brahimi, un gaucher là, de super joueur, je ne sais pas si vous l'avez déjà vu. Et même au fin de match.
Le monde aurait pu. Et d'ailleurs Bruno Hernès l'a parfaitement reconnu.
Pour le début de saison.
Et coach Gallon, on va finir avec vous. Le flop, ce qui a retenu dans le mauvais sens votre attention le week-end dernier en foot fédéral.
Deux flops. Il y a eu deux tops, il y aura deux flops. La défaite de l'US Granville. Et la deuxième, c'est que avec ce fameux Covid, il y a des règles à suivre. Ça, on les suit, on est très précautionneux, on fait attention. Mais quand vos équipes qui n'ont pas fait le test et vous faites le test, il n'y a rien d'obligatoire. J'ai l'impression qu'on marche sur la tête. Alors, on a des obligations au niveau des supporters, mais au niveau des joueurs, il n'y a aucune obligation. Alors, nous, on a fait les tests et il y a même des équipes de nationales aujourd'hui qui n'ont toujours pas fait le test et qui se sont dit, bah, on fait la prépa et tant pis, bah, si on a des tests positifs, on continue. Bah, je trouve ça illogique et c'est un flop énorme dans le monde que l'on vit aujourd'hui.
Merci à vous, coach Gallon, et merci à vous, Mathieu Millot du Foot Normand et Marc Aubot du Courrier Cauchois, d'avoir inauguré cette nouvelle saison du Club Foot sur le digital de Tendance Ouest, sur toutes les plateformes de Tendance Ouest et tendanceouest.com. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro, toujours en vidéo. Soyez fidèles dans le plus grand stade de Normandie. Bonne semaine, salut.
Merci.
Alors attendez les mecs, c'est là qu'il faut que je fasse pas d'erreur.